Cela ne vous a probablement pas échappé, les industriels du secteur de la santé ont été mis à rude épreuve récemment, en particulier pendant la crise du Covid, démontrant qu'il n'y a pas de système de santé efficace sans une industrie de la santé forte en Europe. Actualité du moment, le président Emmanuel Macron a dévoilé le 13 juin son plan de relocalisation de la production d'une cinquantaine de médicaments en France pour faire face à des pénuries structurelles sur des produits importés. Réindustrialisation, relocalisation, digitalisation aussi, comment les entreprises pharmaceutiques françaises et européennes peuvent-elles améliorer leur performance opérationnelle grâce à la digitalisation de leur production et de leurs process? Comment envisager des relocalisations de production afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en principes pharmaceutiques actifs? Quel business case avec la relocalisation dans l'industrie pharmaceutique et relocaliser la production de médicaments? C'est un pari ambitieux. Pour en savoir plus et bien comprendre, deux invités pour ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour tous, enregistré en public et en direct de Vivatech 2023 sur le stand de PwC, Étienne Tichit, directeur général corporate vice-président board member de Novo Nordisk, entreprise danoise leader dans les traitements de diabète et des maladies chroniques et premier employeur de l'Eure-et-Loire, avec un site majeur situé à Chartres. Étienne est accompagné d'Olivier Luanzi, partenaire chez PwC, un homme passionné par l'industrie depuis de très nombreuses années, et il est aussi auteur de l'ouvrage « Les néo-industriels, l'avènement de notre renaissance industrielle » paru aux éditions Les Déviations. Allez hop, on file à Vivatech.
Bonjour à tous les deux et merci de vous prêter au jeu de l'interview ici en public et en direct sur le stand de PwC à Vivatech 2023. Question rapide pour vous deux. Quand on parle d'industrie 4.0, de relocalisation, de resourcing, on parle de digital mais pas seulement. Olivier, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte aussi ?
Alors, effectivement, on est dans le temps du digital, donc naturellement, on parle digital. Mais depuis quelques années, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées sur l'industrie. Naturellement, il y a les crises qu'on a vécues, Covid, Ukraine, qui nous montrent une question de souveraineté, c'est-à-dire la capacité d'être moins dépendant. On ne sera jamais autonome, mais la question de l'indépendance est clé. Et puis, il y en a une autre qui est sous-jacente et qui est sans doute encore plus forte, c'est toute la question du vert. Donc, comment on fait une industrie qui a un impact zéro, en tout cas, déjà, pour commencer, moins d'impact sur l'environnement. Et ça va autant de la question du carbone que celle de la biodiversité du foncier, que celle des approvisionnements en substances de base.
Ok. La décarbonation dans son ensemble, Étienne.
La décarbonation, digitalisation. Donc, chez nous, en tout cas, chez Novo Nordisk, étant focalisé sur les maladies chroniques, c'est vrai que ce sont deux sujets qui sont vraiment très importants. Donc la première chose, c'est réussir à produire le plus localement possible. Ça, c'est quelque chose qui est dicté par notre fondation. Donc typiquement, eh bien, on a des ressources, y compris en France, aujourd'hui avec un site de production industrielle, de façon à pouvoir nous assurer qu'on produise de façon différenciée pour l'Europe, mais pas que. Donc un des points de réflexion là-dessus, c'est oui à la production, et une production différenciée, plus verte, plus digitale dans le sens où elle doit être performante. On doit matcher les meilleurs standards mondiaux. Et puis de l'autre côté, nous assurer que notre marché n'est pas un marché français. Donc c'est ça un peu le travers aujourd'hui, c'est qu'on pense tous à nos parents, nos familles qui ont besoin de traitement tous les jours. Mais aujourd'hui, créer une usine, c'est pas créer un champion français pour la France, c'est créer un champion français pour l'Europe, à minima. Le deuxième aspect, c'est la partie digitale. Donc là, il y a une véritable opportunité à la fois pour nous dans nos modes de production, recherche et développement. Voilà, maintenant, on est de plus en plus sur du... De la production on demand. Donc on fait en sorte que un même lot puisse être attribué à différentes géographies. Donc pour les outils de production, le digital est important, il est au cœur du système. Et puis de l'autre côté aussi sur la gestion de la relation médecin-patient. Donc typiquement le parcours de soins, comment on peut optimiser, rajouter de l'efficacité dans le parcours de soins quand on a du mal à accéder aujourd'hui aux soins.
OK, sur la strate, ça c'est plutôt clair. Pour aller plus loin, si on prend un peu les prérequis, quels sont-ils ? C'est une appétence des autorités ? C'est un sujet de financement ? C'est un sujet d'intégration dans les actes d'achat ? C'est un peu tout ça, Étienne ?
Faut créer les conditions. Donc, la première chose, et je l'évoque souvent, c'est déjà de considérer que le budget du médicament est un budget important et stratégique pour... si on veut une industrie forte, il faut un budget décemment alloué. Aujourd'hui... En particulier, quand on regarde la situation en France, on est moins 10 ans avec le financement aujourd'hui du médicament par rapport aux autres pays, même européens. Donc on est à 14% en Europe, la part du médicament dans les budgets de santé, on est à 10% en France. Donc c'est un vrai challenge, parce que tant qu'on recapitalise pas le budget du médicament, alors le président était positif là-dessus, mais maintenant on voudrait que ça soit traduit par des faits, parce que sinon on sera pas en capacité de pouvoir mettre à l'échelle ces outils de production, ces outils de souveraineté.
Donc des paroles et des actes aussi. Olivier, de ton point de vue, les prérequis?
Alors il y a naturellement le budget, je vais pas revenir dessus. Il y a sans doute l'acte d'achat. Étienne l'a mentionné, hein, quand on est capable de réduire l'impact environnemental de manière significative en produisant en France. On produit pas pour produire, hein, quand on est un industriel, on produit pour vendre. Alors ça peut être à un système public, ça peut être à une clinique privée. Et donc intégrer dans l'achat ces dimensions et par exemple mettre des critères environnementaux ou de carbone à l'intérieur de l'achat des médicaments, ça forcerait naturellement à avoir une production beaucoup plus locale. Et puis il y a une deuxième dimension qui était un peu sous-jacente à ce qu'a dit Étienne, c'est si on veut sécuriser l'approvisionnement, c'est pas la France pour la France et c'est pas un industriel de la pharma juste pour lui. Il va falloir créer des coopérations. Alors au niveau européen, mais même entre les industriels. Quand on a fait une étude sur la sécurisation des approvisionnements de cette industrie, on s'est rendu compte que la plupart des solutions que les entreprises, les laboratoires seuls pouvaient faire, ils l'ont fait. OK? Mais il y a des solutions qui peuvent y arriver que en travaillant ensemble, qu'en créant une plateforme, qu'en collaborant. Et ça, c'est une deuxième étape. Il faut qu'on crée les conditions de cette coopération qui, des fois, vont un peu chatouiller les règles de la concurrence. Et donc, il faut qu'on trouve le bon curseur pour être capable de sécuriser nos approvisionnements en travaillant ensemble sans casser les règles de la concurrence.
Ouais, donc, collaboration, écosystème, agilité, je t'entendais. On est ici à Vivatech, c'est un peu le temple du digital. Justement, si on parlait un peu de digital, Olivier.
Oui, il y a deux dimensions, hein, dans le digital. Je vais prendre plutôt celle de la production, et puis je te laisserai peut-être Étienne développer dessus, et puis aller plus loin sur celle de l'expérience du patient, hein. Donc l'industrie de la pharma s'est digitalisée, surtout sur la partie de la production, c'est-à-dire la chaîne un peu automatique. Mais il reste beaucoup de choses à faire qu'on a à peu près identifiées, hein, avec un certain nombre de laboratoires. Il y a des choses assez simples, comme par exemple la e-formation. Donc être capable de former les gens beaucoup plus en utilisant des outils digitaux, ça peut paraître de base, mais c'est un grand levier d'efficacité. Il y a l'utilisation d'AGV, vous savez, ces petits robots qui permettent de faire les transports et la logistique à l'intérieur, où il n'y a pas nécessairement encore tout le potentiel qui est utilisé. Et puis dans la pharma, il y a un aspect qui est lié à la réglementation. Pour être certain que le médicament que vous utilisez a été produit exactement dans les conditions, il y a toute une documentation à produire. Traditionnellement, c'était une documentation papier. Elle peut être digitalisée avec des gains de productivité énormes. Et ben, vous savez quoi, c'est pas encore fait. Voilà. Donc voilà quelques exemples de leviers de digitalisation sur la production qui permettraient de gagner en efficacité, donc en compétitivité, et de pouvoir rapprocher un peu plus facilement nos sites des patients, des hôpitaux dans lesquels nous allons.
Ah, tu disais, c'est pas que de la production, c'est de l'expérience aussi, et c'est aussi de l'offre. Les fameuses medtech, hein, qu'on connaît tous, Doctolib en est une, sans donner de nom. Étienne, il y a une actualité quand même. Vous venez de faire l'acquisition de Biocorp dans votre groupe, si je me trompe pas. Pourquoi vous avez fait ça?
Alors c'est en cours déjà.
J'ai devancé le,
ouais, non,
le mariage.
C'est en train de se faire. Donc alors ce qui est vraiment important, tout à l'heure on évoquait, enfin Olivier évoquait la partie industrielle. Je pense que sur la partie industrielle déjà, même sur la partie R&D, voilà les jumeaux numériques, on parle de pas mal de, il y en a pas mal d'initiatives aussi pour les études cliniques, pour éviter avoir des cohortes virtuelles, donc pour ne plus faire de bras comparateurs qui sont traités par placebo. Donc vous voyez, il y a des sujets aujourd'hui autour de l'étude de cohorte, de la digitalisation, qui sont hyper importants pour nous en tant que industriels qui faisons de la R&D et qui faisons de la production. Pour toute la partie digitale, donc là, et Biocorp et tout ce qui peut être lié à la connectivité, la question c'est comment créer un écosystème qui soit favorable pour qu'un patient, quelle que soit sa localisation, eh bien puisse être informé de où il en est sur sa glycémie. Donc aujourd'hui on a des capteurs en continu qui fonctionnent très bien. De l'autre côté, il a un traitement, donc comment s'assurer que ce traitement-là soit suivi, mais et surtout bien accompagné. C'est pas de la surveillance pour fliquer, mais véritablement pour accompagner. Et derrière, augmenter la connectivité et fluidifier le parcours de, en travaillant en partenariat dans l'écosystème. Derrière, on se retrouve avec un patient qui est complètement appareillé et qui peut vivre à 400-500 km d'un centre de référence de diabétologie, par exemple, et pouvoir avoir de la téléassistance par une infirmière compétente. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'avec ces outils digitaux, on peut encore plus informer. Donc, le patient peut avoir plus d'informations et peut plus être maître de sa maladie, quelque part. Donc, alléger son fardeau. Et puis, en même temps, de l'autre côté, de pouvoir faire appel à des ressources qui sont qualifiées, qui sont à distance. Donc l'achat de Biocorp est logique dans le sens où nous, on cherche à ce que, quand un patient s'injecte de l'insuline, eh bien, il puisse avoir l'information de ce qui s'est injecté, quand est-ce qu'il s'est injecté, qu'il ait l'information sur le même écran de son smartphone, bien sa glycémie en continu, et qu'il puisse ajuster en fonction de ses repas, son activité physique et tout ça. Et que s'il y a une question, derrière, il y a possibilité d'avoir une virtual clinique. Hein. On en a un certain nombre en France aujourd'hui qui sont en train de se créer.
Tu nous parles de ce type de service, ils sont passionnants, mais ça suppose, et vous le disiez tout à l'heure, collaboration, écosystème. Comment vous faites pour embarquer tout le monde, les médecins, les partenaires, les patients, peut-être même vos concurrents? En deux mots, vous faites comment?
Bah, déjà, la première chose, je pense que, faut dépasser les barrières. Parce que bien souvent, on est, je pense qu'on peut se dire que pas mal d'industries travaillent en silo. Et aujourd'hui, quand on parle de la santé, faut vraiment penser au parcours de soins. Et dans le parcours de soins, on est un certain nombre d'intervenants. Donc nous, typiquement, chez Novo Nordisk, on a fait le choix d'avoir des partenariats. Alors, parfois, ce sont des achats pour avoir une compétence qui va nous aider à aller plus loin, à avoir une nouvelle plateforme numérique, par exemple. Mais ce sont aussi des partenariats avec des partenaires qui sont plus compétents. Je pense, par exemple, à Abbott, sur tout ce qui est mesure de glycémie en continu. Donc, typiquement, avec eux, eh bien, on travaille de façon à ce que les informations aillent dans les deux sens, de façon à ce que ça aille au bénéfice du patient. Donc la notion de concurrence, pour moi, elle est pas là. La notion, elle est plutôt d'intégrer et de faire en sorte que derrière, on délivre plus de soins et un meilleur soin.
Bon, VivaTech, c'est un événement qui a aussi une portée internationale. On va rester quand même en Europe. On dit que souvent sur des questions environnement, souveraineté, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, digital, la France, c'est peut-être un marché un peu trop petit et que l'Europe, c'est la bonne échelle. Tu partages?
Ah, oui, de toute façon... Si je prends ne serait-ce qu'un site industriel comme celui qu'on a à Chartres, qui est notre plus gros site européen en dehors du Danemark, on produit pour 9 millions de patients tous les jours. Donc c'est une production qui est à haute cadence. De l'autre côté, on sert 5% le marché français, 17% le marché européen, et le reste, eh bien, les pays qui sont limitrophes. Donc on peut pas aujourd'hui se dire que on devient un industriel champion en France que pour la France. L'échelle à minima est l'Europe. Et je pense même un peu plus que l'Europe, on peut embrasser, on va dire, le Moyen-Orient et tout ça aussi et l'Afrique dans les pays qu'on peut servir à partir de la France.
Ok, on reste en Europe. Question un peu poil à gratter pour toi, Olivier. Qu'est-ce que tu penses des nouvelles propositions de la Commission européenne?
Alors, comme le disait Étienne, évidemment, économiquement, l'Europe est l'échelle pertinente, au moins l'Europe. Après, la difficulté, c'est que la gouvernance européenne, elle est pas très douée, notamment pour prendre en compte, ou elle est lente, pour prendre en compte des sujets comme la souveraineté, ou bien comme la nécessité d'aider des entreprises à se relocaliser avec des finances. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui dans les règles européennes, c'est qu'on va doucement, mais très doucement, vers des idées de relocalisation. Mais si on prend le dernier paquet, hein, alors vous pouvez vous amuser à le lire, c'est 2x200 pages, merci. C'est toujours très prolixe avec la Commission européenne. Mais il n'y a pas de dispositif d'aide financière pour augmenter la capacité de production de médicaments en Europe. Il y a des choses sur l'innovation, c'est super, mais sur la capacité elle-même, c'est-à-dire pour refaire des nouvelles usines, il n'y a pas de dispositif prévu. Alors il y en a pour les microprocesseurs, il y en a pour les batteries, vous le connaissez, il y en a pour les panneaux photovoltaïques, mais pas pour les médicaments. Alors je suis sûr que ça va venir à un moment donné, mais il y a des intérêts divergents, il n'y a pas une souveraineté européenne, il y a 27 souverainetés européennes, et pour les mettre en phase, ça prend du temps, ce qui laisse la place à des politiques pour les États membres ou pour les pays au départ, même si ça crée des tensions. Voilà, donc on est typiquement dans cette configuration. L'Europe avance doucement. Hier, le président de la République a annoncé des choses un peu plus, je dirais, agressives. Je sais pas si c'est agressif, mais en tous les cas, un peu plus volontariste. Et à n'en pas douter, ça va faire bouger l'Europe doucement. mais on a toujours cette question de temporalité entre l'urgence que soulignait Étienne, à la fois en termes de souveraineté et puis de délivrer des produits aux patients, et puis les temporalités de décision de la commission, le temps d'aligner tous les États membres, tous les intérêts. Il y a des pays qui produisent beaucoup de médicaments, il y a des produits qui les consomment beaucoup, et donc les intérêts sont pas forcément alignés, ça prend du temps.
Donc faut jouer temps court, temps long, j'ai compris.
Temps court, temps long.
Dernière, si je peux rajouter quelque chose.
Le mot de la fin.
Ouais, non, mais sur l'Europe, non, parce que quand même ça c'est un vrai sujet. Je pense que on a un vrai risque sur le médicament en Europe avec les nouvelles propositions européennes de législation sur le médicament, avec une réduction de 2 ans des brevets. Donc ce qui veut dire que les brevets vont tomber plus vite dans le domaine public. Donc ce qui veut dire que quel va être le niveau d'attractivité de l'Europe d'ici à ce que ces décisions soient prises. Et ça, c'est un vrai enjeu. Je pense que pour l'ensemble de l'industrie, on se dit tous que le marché américain devient encore plus attractif entre l'IRA, et puis de l'autre côté, une protection des brevets, une protection et voilà. Donc toutes les mesures d'attractivité aux États-Unis sont alignées. En Europe, on se crée un marché où on rend les choses plus difficiles. Donc sur les brevets, ça c'est les nouvelles propositions, avec une idée européenne, une idéologie qui est 27 pays pourront bénéficier des traitements. La seule chose, c'est que vous imaginez que le PIB est pas le même en Roumanie, en France et en Angleterre. Donc, on peut sortir l'Angleterre peut-être. On va prendre l'Italie, allez. Donc, nécessairement, il y aura pas la même commande publique sur le médicament. Donc, se dire que les 27 pays auront accès de la même façon à tous les médicaments, bah, c'est une fausse idée. Nous, on voudrait bien, en tant qu'industriel, parce qu'on considère que l'Europe devrait être vraiment l'unité de mesure, l'unité pour produire, l'unité pour faire de la R&D, l'unité d'attractivité. Mais si ces conditions-là sont mises à mal par cette nouvelle réglementation, ben derrière, on a un vrai souci. Et le marché américain sera encore plus attractif. Donc, faut avoir ça en tête. Et je pense que derrière, ça peut vraiment créer des conditions qui vont à l'encontre d'une réindustrialisation, à l'encontre de la R&D en Europe, à l'encontre de vouloir lancer, prioriser l'Europe.
Dernière question, et je vais faire appel à votre sens de la synthèse. Je vais vous demander de prévoir le futur dans 5 ans, mais vous avez le droit à un seul hashtag. Étienne.
Europe.
Europe. Olivier.
Moi, je vais t'en donner 2. Je vais dire
Renaissance. Ça, c'est de la triche. Ah, non. T'as droit à un seul. C'est moche.
Alors, renaissance industrielle, parce que c'est pas simplement de la réindustrialisation. C'est une autre industrie. Quand vous baissez l'empreinte carbone de 40% ou que vous rapatriez les 80% de médicaments.
T'appelles ça un hashtag, toi, il est long, hein.
Qu'on fait en Inde ou en Chine, en Europe, bah, c'est vraiment pas la même chose.
Et moi, je rajouterais vert.
Ah, non, bah,
en a 2.
Ils sont sans
il
fin.
En a 2, donc je vais mettre vert.
Bon, bah, merci. Merci à tous les deux. Merci à tous les spectateurs et participants de ce direct enregistré en public à Vivatech 2023. Merci aux équipes de PwC pour leur accueil, pour avoir permis cette rencontre. Les conversations continuent. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast. N'hésite pas à t'abonner, à partager auprès de tous ceux que tu aimes et que tu trouves intéressant. Voilà, c'est un beau sujet. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.